Ils sont là. Voilà. Un, deux. Ah, ça, ça. C'est bon. Très bien. On va faire vite, hein, puisqu'on a déjà accumulé pas mal de retard. Ah, d'accord. Ça marche avec le bouton du milieu avec le. Ok. Alors, normalement, je devais être avec Louis Breuse de. Enfin, non, Louis ne pouvait pas être là. Et avec Michel Grandjean, donc DIM de l'EPSM de Caen. On a travaillé support avec Louis Breuse de Tieken, qui est le DAF de l'EPSM de Métropole. Et je suis Gaël Leloup, donc DAF du Valmont. Alors. Le sujet qui vient, on n'a pas vraiment dégagé de consensus au niveau de, ni de l'ADESM, donc ces propos qui suivent n'engagent que moi, je préfère le préciser. Et d'ailleurs, il y a à mon avis plus de questions que d'affirmations dans le contenu qui va suivre. Ça ne marche pas. Oui, mais je pense que c'est un PDF, c'est pas un PowerPoint. Bon, voilà, merci. Alors... le plan, bon, rapidement, hein, après une petite intro, on passera donc à l'état des lieux de la VAP. Et puis surtout, je vous présenterai une analyse prospective d'un mode de financement adapté aux enjeux territoriaux. On a tenté avec Louis Breuse de Tieken de plaquer son modèle qu'il avait donc travaillé sur Lille et sur certains secteurs de l'Alsace. On l'a plaqué en fait sur les régions. Et puis on verra les résultats que cela donne. Et puis ensuite, nous conclurons. Alors, déjà en guise d'introduction, rappelez que. Finalement, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une unité de recherche clinique en économie de la santé d'Île-de-France qui avait produit donc un document qui mettait en exergue que finalement les dépenses formelles représentaient qu'un cinquième du coût de la pathologie mentale en France. 13,4 milliards d'euros reviennent donc au système de santé et l'hôpital à peu près doit représenter 8 milliards d'euros. Donc on représente finalement que 7% du coût de la pathologie mentale en France. Ça permet de relativiser un petit peu notre participation dans cette affaire. Pardon. Alors ensuite, voilà, les territoires. Encore une affaire de maille. Oui, enfin, jeu de mots sur le pognon, parce que c'est voilà la maille géographique. Alors effectivement, le secteur est né en 1960. En une circulaire du 25 octobre 2004 nous dit qu'il est désormais maintenu dans sa seule dimension fonctionnelle. Et le 5 juillet 2011, dans la loi HPST, on nous dit qu'il faut se coordonner avec la sectorisation psychiatrique. Donc moi, je ne suis pas un expert du droit, mais je ne sais pas si le secteur est mort ou vivant, ou mort-vivant, je ne sais pas. En tout cas, peu importe la maille géographique, et ces propos n'engagent que moi, je pense qu'il s'agit de répondre aux enjeux territoriaux, à savoir développer donc, une offre de proximité, donc là, atomisée, et en même temps développer une offre spécialisée, donc forcément massifiée. Évidemment, alors c'est pas antagoniste, hein, parce qu'on peut être à proximité des patients sur des offres ambulatoires et puis massifier une offre en hospice complète. Et puis évidemment, structurer une offre graduée, diversifiée et organisée en filière. Ça, on ne sait pas encore, enfin, c'est pas visible partout. Passer à la slide, merci. Alors, la VAP, je vous rappelle, hein, pour mémoire, donc elle a été réalisée autour de quatre compartiments, hein, coût, spécificité géopopulationnelle, médicaments onéreux, mission d'intérêt général. Alors, les médicaments onéreux en psychiatrie, pour l'instant, il n'y en a pas. On dépense autant d'argent en médicaments qu'en nourriture. Donc, sauf à ce qu'il y ait une innovation thérapeutique majeure, pour l'instant, il n'y a pas de molécules onéreuses en psychiatrie. Les MIG, pareil, soit elles sont mal décrites, soit on ne nous laisse pas les décrire correctement au niveau du retraitement comptable. Je ne sais pas, en tout cas, elles représentent aujourd'hui moins de 2% des coûts sur la nation. Donc, ce n'est pas un compartiment qui, pour l'instant, occupe une place importante. Donc, restent quand même les deux principaux piliers de la VAP. Donc, ce sera une approche productiviste en base de coûts et ce serait une approche sur la population. Alors, c'est un modèle qui a été pensé en 2004, qui peine quand même à voir le jour, mais qui fait toujours consensus. Et si le compartiment de financement de l'activité renvoie à l'efficience de l'offre, hein, est-ce que je produis du soin moins cher ou plus cher que les copains, le compartiment populationnel renvoie à sa planification. Et est-ce qu'il est possible de structurer une offre pensée pour 30 ans avec un financement annuel? Donc, vous l'avez compris, je ne suis pas foncièrement pour un financement, mais ça n'engage que moi, hein, populationnel dans le cadre d'une VAP. Donc l'absence d'arbitrage national sur le sujet induit des initiatives régionales qui produisent des iniquités d'allocation de ressources. Et on va voir que déjà entre régions, il y a des iniquités, donc ça ne ferait que les renforcer. Évidemment, les fédérations plébiscitent une reprise des travaux par l'échelon national. Et puis je pense que ça a été dit ça aux journées nationales de l'information médicale et du contrôle de gestion en psychiatrie, mais il faut le redire, c'est que le modèle d'allocation de ressources doit être au service d'une politique nationale de santé mentale. Il ne s'agit pas de bricoler. Bon. Alors, quelle est la situation actuelle de la répartition de la dotation globale? Alors, on fait ça sérieusement, on sort la circulaire du 29 mars 2013 hein, relative à la campagne tarifaire des établissements de santé, et puis on essaie de retrouver finalement les DAF psy par région. Et là, patatrac, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on a un tableau récapitulatif où on voit bien qu'on a l'ODAM, donc l'objectif des dépenses d'assurance maladie qui est décomposé. Donc c'est 16 milliards, hein, donc il y a 6 milliards sur la SSR, 8,9 on va dire sur la psychiatrie, l'USLD et puis le reste. Mais dans le détail par région, qui est un peu le flou à l'écran, je m'en excuse, c'est agrégé DAF psy et DAF SSR. Donc on n'a pas le détail. Et puis en plus, quand on cherche à récolter les informations, il manque 16 millions. Bon, alors ou je suis un peu bébête ou bon. En tout cas, ce qui serait souhaitable, c'est que nous disposions des données au niveau de l'ADESM, hein, arbustes, qui permettent de tracer les financements jusqu'à l'établissement de santé. Je pense que ça, ce serait un minimum. Si on veut faire ce type d'études plus sérieusement et plus finement, il faudrait qu'on puisse mobiliser ces données-là. Donc, faute de DAF, on a décidé avec Louis de retenir les coûts complets disponibles par région sur le site de la TIH. Vous allez sur Snati avec vos codes et vous pouvez demander les coûts complets. Alors, j'ai pris toute forme d'établissement et j'ai pris les dépenses psy et activités spécifiques hein, pour avoir vraiment un périmètre qui se rapproche le plus de la DAF. Le coût complet, c'est quoi? C'est le titre 1 de recette, donc assurance maladie. Le titre 2, donc c'est ce qu'on facture aux patients. Plus ou moins le résultat, finalement, d'établissement. Je vous fais grâce des charges non incorporables et des produits non déductibles. Mais grosso modo, c'est ça. Donc on arrive juste, revenez. Voilà, on arrive quand même donc à avoir un total de 8,5 milliards d'euros versus 8,9 de DAF. Sachant qu'on est sur des en plus, on n'est pas totalement sur les mêmes années. On est sur 2011 en coût complet et 2013 en DAF. Bon. Sur les ordres de grandeur, je pense qu'on est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on regarde donc les dépenses d'activité spécifique, un peu moins de 200 millions de psy, un peu plus du milliard, la population, qu'on regarde donc les charges nettes majorées par habitant, hein, per capita, au total, ça fait 134 euros en moyenne par habitant. La médiane est de 137, le premier quartile est de 124 et le dernier quartile est de 151. Christine Bronec nous avait annoncé 129 euros de DAF. Donc là, on n'est pas sur la DAF, c'est pas tout à fait recollable, mais les écarts sont à peu près identiques. Voilà. Slide suivante. Voilà, donc après, on peut s'amuser à représenter ça avec une belle carte. J'en profite pour faire de la pub pour Geoclip, c'est gratuit. Notez bien, Geoclip, dans Google, vous avez accès à un outil de cartographie qui est absolument formidable, qui embarque plein de données qui est gratuit. Voilà. Et on peut importer ses propres données. Donc là, je me suis amusé à mapper l'euro habitant dans une carte. On voit quand même que c'est assez disparate. Alors justement, on s'est posé la question, dans quelle mesure ces disparités sont-elles justifiées par des variables qualitatives? Puisque là, on est sur de l'euro habitant un peu bébête. Est-ce que finalement, en fonction d'indices sociaux démographiques, est-ce qu'on pourrait avoir, ça pourrait justifier ou pas ces écarts? Donc le modèle proposé par Louis peut être mobilisé pour tenter de répondre à cette question. Alors, accrochez-vous, parce que même moi, j'ai faut se faire mal à la tête. Hein, pour. Mais je pense être arrivé à comprendre le modèle de Louis. Alors, non, mais c'est vrai, il est compliqué. Il est compliqué. Alors, on évalue une demande potentielle. Cette demande potentielle, elle est évaluée à partir de 7 indicateurs qui sont ramenés dans une même échelle grâce à la variable centrée réduite. Variable centrée réduite, déjà, je vous ai perdu. Non, mais l'expertise, c'est vraiment super bien cette idée de mettre... parce que finalement, quand on veut décrire un territoire, quand on veut comparer des secteurs entre eux, eh ben, on mobilise des tas d'indicateurs, qu'on voit là d'ailleurs, par des 15-29 ans, par des ménages d'une personne, par des ouvriers, par des ménages d'un imposé. Normalement, Louis retient la part des ménages qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Je n'avais pas cette donnée, donc on a fait sur la part des ménages d'un imposé. Taux de chômage... par de la population non scolarisée sans diplôme et par des familles monoparentales. Quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, la variable centrée réduite, ça permet de mettre tout ça dans une même échelle, en fait. Et du coup, on peut les additionner, en faire une moyenne arithmétique pour calculer un indice, en fait, synthétique, hein, socio-démographique. C'est vachement bien, c'est pas compliqué à faire en plus dans Excel. Ceux qui s'intéressent, je peux vous donner la recette parce que c'est pas très compliqué. Ensuite, non, restez, c'est pas fini. La demande, je sais, il faut faire vite. Mais... Donc la demande exprimée, donc c'est la file active ramenée à la population. Donc là, on ne peut pas pondérer la file active, parce que lui, il a pondéré dans son modèle. Là, c'est la file active brute. Sur les données nationales à TI, on n'a pas les files, on ne peut pas pondérer les files actives. Donc par souci de simplification, ce n'est pas fait. Finalement, la demande exprimée, c'est quoi? C'est un taux de recours, là. Donc ensuite, on fait la corrélation entre ces deux séries de données par région, et on arrive à une corrélation que Louis juge très significative, à plus 0,47. Je ne suis pas statisticien, il me semblait que Rémi, c'est plutôt 0,7, non? À partir de 0,7, on peut considérer que c'est corrélé. 0,47, c'est moyen. Moi, je trouve ça moyen. Bon. Pour les 21 régions retenues dans l'étude. Donc. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Sur la base de la droite de régression linéaire qui est calculée ici, eh bien, on calcule une file active en simulant finalement une demande potentielle qui serait totalement couverte avec l'indice socio-démographique, facteur de A, plus population divisé par 1000, facteur de B. Et par exemple, pour l'Alsace, on arrive au calcul suivant. Donc c'est moins 0,20, c'est l'indice socio-démographique démographique de l'Alsace, multiplié par A, donc là, en l'espèce, c'est 3,23, plus 1843, bah, c'est la population de l'Alsace divisé par 1000, 1 840 000 habitants, multiplié par 33,473, bah c'est ce que nous sort notre droite de régression. On arrive à une file active calculée de 61 691 patients, qui n'est pas forcément la file active vraie de l'Alsace, mais qui devrait être la file active si finalement on répondait parfaitement à la demande potentielle dans le modèle. Donc, sachant qu'un patient coûte en moyenne un peu moins de 4 000 euros, donc 8,4 milliards d'euros divisé par une file active calculée de 2,1 millions de patients, ben l'Alsace nécessiterait 246 millions d'euros et en consomme pour le moment 219. Donc voilà le modèle. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Le modèle. On peut passer à la slide suivante. Donc après, qu'est-ce que ça donne donc résultat? Alors. Ici, donc, on reprend la population, l'indice socio-démographique, on a les taux de recours, la file active calculée, la file active 2012, l'ADAF-PSI en base historique, l'ADAF-PSI en file active calculée. Et je me suis dit, je vais quand même vérifier qu'est-ce que ça donne si, en plus de l'ADAF-PSI calculée, qu'est-ce que ça donnerait si finalement je répartissais la ressource, bah, bêtement, c'est 134 euros par habitant, bah, allez, paf, je donne à tout le monde 134 euros. Et là, patatrac, je suis très près, mais très très près, de la DAF PSI en base file active calculée. Et oui, parce que finalement, le plus gros paramètre dans cette affaire, c'est la population. Donc on a beau chercher à pondérer ça avec un indice, ou alors il faudrait politiquement décider d'accorder plus d'importance à l'indice socio-démographique, et pas laisser les maths faire le calcul pour nous. Et de fait, on arrive à, donc malgré une corrélation de 0,47 entre la demande potentielle et la demande exprimée, un volume de ressources presque identique est déplacé dans une péréquation de ressources per capita que dans une péréquation de ressources sur file active calculée, soit 367 millions d'euros, ce qui représente 4,4% des coûts. Alors, une péréquation à l'activité et à la file active. Alors, c'est un peu ce que je fais, hein, moi, hein, sur le benchmark des retraitements comptables. Hein, pas, je ne fais pas à la file active, je le fais à l'activité. Bon, alors à partir de l'activité par nature de prise en charge. Vous voyez bien, nature de prise en charge, on n'en a que trois. Hein. C'est quand même un peu frustre. Hein. Sans distinction de la psychiatrie générale et de l'infanto-juvénile. Alors, on suppose que la symétrie du périmètre observé et l'homogénéité euro-habitant, hein, ça on l'a déjà démontré sur deux années consécutives, adultes versus enfants, permet cette simplification. Alors, idéalement, j'aurais dû mobiliser les bases RPSA, R3A pour un calcul plus fin par forme d'activité. Mais je pense que les résultats seraient sensiblement les mêmes. Donc la clé simplifiée pour agrégation de l'activité est la suivante, temps complet 100, temps partiel 60, temps ambulatoire 30. On applique ces coefficients à la consommation de soins et on calcule une activité agrégée. Et ensuite, on répartit les ressources en fonction de ce volume d'activité. Et là, le volume de ressources déplacées sur une péréquation opérée à partir de l'activité agrégée est de 522 millions d'euros, soit 6% des ressources totales. Ça confirme les résultats obtenus sur les trois précédents benchmarks où, effectivement, un modèle de péréquation de ressources à l'activité en psychiatrie ne déplace que 6% des masses, finalement. Et la péréquation sur file active est un peu moins cruelle. Elle ne déplace que 385 millions d'euros, soit 5% des ressources totales.
Alors, Louis a proposé dans son modèle de pondérer ces différentes méthodes en différenciant donc les valeurs historiques des valeurs actuelles. Et on accorde 35% à la valeur historique, 20% sur la file active calculée, 25% sur l'activité et 20% sur la file active totale. Les résultats sont les suivants. Donc là, je n'ai représenté que les écarts relatifs. C'est-à-dire si vous perdez, si vous perdez de l'argent, vous serez à moins X%, si vous en gagnez à plus X%, sur les trois méthodes. Sur la DAF, je n'allais pas le mettre, j'aurais eu zéro partout, c'était stupide. Et donc on a un écart total en tenant compte donc, de ces différents critères de pondération. Et évidemment, ça permet de limiter les effets des différentes péréquations, et on arrive au total à 212 millions d'euros qui sont déplacés dans ce modèle, soit seulement 3% des ressources dédiées au champ psychiatrique. Voilà la carte des gagnants, des perdants. Alors, où est-ce qu'il y a le plus de à craindre? Alors, en Guadeloupe, en Franche-Comté, Limousin, Martinique et Picardie, ben, c'est des régions qui perdraient le plus de ressources. Par contre, dans le Languedoc-Roussillon, le centre et la Haute-Normandie, donc les zones les plus rouges sur la carte, eh bien, sont les régions qui gagneraient le plus de ressources. Sur le Languedoc, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ils sont pas chers à l'habitant, ils sont pas chers à l'activité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc en conclusion, hein, je vous ai mis la synthèse des résultats au bout dans un tableau synthétique, hein, avec les volumes déplacés en absolu, en relatif, avec les critères de pondération et l'écart total, dans lequel évidemment la DAF historique est retenue à hauteur de 35%. Et là, c'est une conclusion plus en guise de question pour ouverture et j'espère débat. Alors, les écarts existent. Est-ce qu'il faut les corriger? En tout cas, le modèle d'allocation de ressources, il a pour but pas uniquement donc de corriger des écarts, mais de faire converger les acteurs vers les orientations stratégiques nationales. Ça, c'est vraiment important. Je crois qu'il faut que le modèle de péréquation de ressources qui va être pensé soit au service de nos orientations stratégiques. Ensuite, est-il pertinent de planifier une offre faut-il un financement populationnel? Voilà. Et je pense que les écarts sur ce volet sont essentiellement liés à la taille et à la localisation de l'offre, donc à la planif. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'est le géographe de tout à l'heure. Est-ce que les données de temps d'accès est-ce qu'on se trouve facilement? Est-ce que c'est facile à mobiliser ou est-ce que c'est compliqué à trouver? Mais on a, à mon avis, beaucoup à travailler là-dessus, sur la localisation et la taille de l'offre, et l'élasticité justement de la demande par rapport à la localisation et la taille de l'offre. J'en profite aussi pour vous rappeler que la SAE est refondue et que, nous, la psychiatrie, on est un peu épargné, on ne va pas faire une SAE par code finesse géographique, mais trop souvent dans nos bases RPSA, R3A, le finesse géographique est mal renseigné. Et si on veut justement étudier l'élasticité de l'offre par rapport de la demande par rapport à la localisation de la demande, déjà au moins ça, eh bien il faut qu'on ait les finesses géographiques bien renseignées. Voilà. Je sais que dans mon établissement, par exemple, j'ai 6 finesses géographiques qui sont mal renseignées dans le RIMP. Donc à partir du 1er janvier 2014, on va essayer de corriger cette anomalie. Et puis sur la taille, ce serait intéressant aussi qu'il y ait des études sur quelle est la bonne taille critique pour un CMP. Ça m'intéresserait ça. Je pense sans doute à partir des données justement des rapports annuels de secteur 2009, je crois c'était. On doit pouvoir demander ça à Rémi Mas et faire regarder des CMP en fonction de leur taille et peut-être aller les rencontrer pour voir quelle est la taille critique. Ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Bon. Donc pour revenir à nos moutons, donc faut-il un financement populationnel? Est-ce qu'il est pertinent de planifier une offre sur des cycles moyen-long terme avec un financement annuel? Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais vous gagnez des sous sur une péréquation de ressources à la population? Et vous allez faire des excédents. Si vous en perdez votre offre, vous l'avez. Diminuer des lits comme ça, c'est facile sur le papier, mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Donc si au final, on met en place un système qui n'a que vocation à faire des excédents et à générer des déficits, je pense que là, personne n'a intérêt à bouger et à y aller. Donc je crois qu'il y a le cycle de la planification et le cycle de l'efficience. Et un modèle de financement doit, à mon avis, plutôt répondre au cycle de l'efficience. Et finalement, on pourrait plutôt identifier des cibles, des fourchettes, hein, en matière de taux d'équipement, ce serait sans doute plus efficace. Tiens, je l'avais posé sous forme de question, là je l'affirme. Bon. Ces cibles doivent tenir compte de l'offre adjacente. Je parle bien d'offre adjacente, hein, pas d'amont d'aval, parce que c'est aussi hospitalocentrique finalement de parler d'amont d'aval. Les médecins généralistes, les libéraux, l'hébergement, PAPH, des personnes âgées, des personnes handicapées. Là, on a vu la difficulté à mobiliser des bases en la matière. Il n'y a pas encore de PMSI sur le champ médico-social, c'est fort dommage. Enfin, ça ne s'appellerait pas comme ça, mais enfin, il n'y a pas de recueil d'activité. Donc ces CIP peuvent intégrer des recommandations sur la structuration de filières, la part des ressources dédiées aux alternatives, et puis les délais d'accès aussi aux alternatives. Ce serait intéressant qu'on nous dise, ben voilà, un CMP, il faut qu'il soit à... tout à l'heure, j'entendais parler de 20 minutes. Bon, ce 20 minutes, il sort d'où? Est-ce que finalement, ça fait consensus? Ou est-ce que c'est le fruit d'une étude, justement, sur l'élasticité offre-demande par rapport à la localisation? Voilà, donc faut-il un financement à l'activité? En tout cas, il permettrait de limiter les écarts d'efficience et d'améliorer la productivité de certaines formes d'activité. Je suis quand même encore un peu stupéfait du coût d'un acte en CMP, 86 euros. Si demain, moi, je dois aller voir un infirmier ou un psychiatre en CMP, ça me ferait mal de laisser un billet de 100 euros et qu'on ne me rende que 14 euros. Comment éviter donc les effets pervers d'un financement à l'activité en psychiatrie? Évidemment, il ne doit pas favoriser la chronicisation des prises en charge en hospitalisation complète. Donc là, faut-il des tarifs dégressifs en hospitalisation complète? Pourquoi pas? Il ne doit pas être un frein au développement des alternatives. Donc, faut-il survaloriser certaines formes d'activité? Et idéalement, il doit intégrer le parcours de soins. Et là, c'est bien de le dire, mais c'est compliqué, parce que est-ce qu'il y a finalement des consensus sur des bonnes pratiques en matière de parcours? Et est-il possible, finalement, si on édicte des bonnes pratiques, est-il possible d'avoir un consensus sur ces questions-là? En clair, est-ce qu'on peut avoir des approches normatives en psychiatrie? Et enfin, dans l'immédiat, et compte tenu quand même des taux de reconduction budgétaire qui sont extrêmement sévères hein, en ce moment, des corrections même à la marge permettraient plus d'équité. Parce que finalement, qu'on soit en situation, peut-être pas de rente, je ne vais pas exagérer, mais plus confortable ou plus difficile, on est tous traités de la même manière, sauf dans quelques régions où on commence à faire de la modulation voilà, de DAF. Juste pour aller dans la marge en gauche, voilà, bientôt accessible, hein, je rappelle l'ATIH, un outil de restitution médico-économique en psychiatrie. L'ANAP travaille sur les parcours de soins, l'ATIH sur une échelle nationale des cours en psychiatrie, ça a été annoncé. Et puis au niveau de l'ADESP, on a annoncé à la précédente journée des contrôles de gestion et d'information médicale en psychiatrie, sur 2014, la rédaction d'un guide des indicateurs en psychiatrie. Merci de votre attention.